Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum l'Épargne, notre partenaire. Quorum l'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget, et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant, et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum l'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum l'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN. Et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode. Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Je viens d'appuyer sur enregistrer, donc nous sommes en ligne avec Christophe. Salut Christophe, comment vas-tu?
Ça va très bien Barthélémy, parfait.
Eh ben, écoute, top. Écoute, je suis vraiment ravi qu'on puisse s'entretenir ensemble, du coup, sur le podcast Extraterrien. Comme je te le disais, enfin, comme on se le disait juste avant, on a eu un petit peu de mal à se joindre et c'est entièrement de ma faute. J'ai eu deux fois des petites annulations de dernière minute. Donc, et les choses qui savent se faire attendre sont celles qu'on savoure le plus. Donc, j'espère qu'on savourera bien cet entretien ce matin. Et encore mes excuses. Et une deuxième raison pour laquelle je suis suis très heureux de pouvoir m'entretenir avec toi. C'est que bah, aujourd'hui tu fais de la préparation mentale et t'accompagnes beaucoup d'athlètes et c'est quelque chose qui m'a été c'est des sujets qui m'ont été de plus en plus demandés par les auditeurs. J'ai beaucoup de trailers ou en tout cas d'athlètes qui vont faire des sports d'endurance et du coup je pense que notre entretien sera très riche en très bons conseils pratiques et je pense qu'on pourra rentrer dans le vif du sujet. Donc j'ai vraiment très hâte. Est-ce que ça te va comme programme ce matin?
Ben ouais, j'ai tout le temps pour ça. Effectivement, on a eu quelques embûches pour se rencontrer. Mais l'essentiel, c'est qu'on soit là et puis qu'on démarre cet entretien. Alors, je suis pas que préparateur mental, je suis surtout préparateur physique dans le trail, mais je pense qu'on en parlera. C'est comment associer aussi les deux et pas forcément les scinder, c'est-à-dire un côté faire la prépa mentale et un côté faire la prépa physique, mais qu'on fasse au quotidien une sorte de prépa mentale, en tout cas qu'on se prépare pour les objectifs, qu'on ait une certaine cohérence pour aller là où on veut aller. Donc c'est plutôt dans cette idée-là que je suis préparateur mental et j'essaie d'associer les deux en fait au quotidien avec les athlètes, mais on va en parler de tout ça.
Ouais. Bien sûr, avec grand plaisir, c'est noté dans mes questions. Mais juste pour commencer, comme je te le disais, j'aime bien commencer par l'enfance et savoir un petit peu qui tu étais plus jeune, comment est-ce que tu t'es construit. Et la question historique et traditionnelle que je pose sur le podcast, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport.
Le premier grand souvenir de sport, alors moi j'ai 46 ans, je suis né en 75, mon premier grand souvenir de sport, il est pas super glorieux, c'est quand tu te fais prendre le dernier dans des équipes de foot, tu vois. quand t'as tout le monde au bord du chemin, t'as deux qui font les équipes, et puis tu finis par, bon, bah, Christophe, alors, bon, voilà. Et, le second, c'est de voir un panneau de basket où je prends une adhésion pour faire du basket. Et puis je vois bien que l'anneau, il est vraiment trop petit ou le ballon est vraiment trop grand. Mais en tout cas, je suis passif sur le terrain. Je sais pas trop pourquoi je suis là. Et le vrai grand, première image sportive, on va dire positive, parce que là je t'en ai donné que des négatives. Je vois des étapes du Tour de France et puis je prends mon vélo et je pars dans la campagne rouler 40 km à 10 ans. Okay. Et à 12 ans, je fais le cross de l'école en 6e, je fais 2e, je sais pas pourquoi. Tout le monde, j'étais persuadé même moi que je savais pas courir, que je savais rien faire en sport. Et je finis 2e du cross de l'école derrière Ronald à l'époque qui courait très bien et qui était déjà en athlète, etc. Et ça a été une révélation. J'avais trouvé ça une forme d'aisance en plus, et puis dans la forêt, dans la boue, dans le cross, c'était du cross. Et puis à partir de là, j'ai trouvé ma voie en fait.
Ok. Et c'est marrant, tu mentionnais un peu les sports collectifs et peut-être des sports dans lesquels il y a besoin un petit peu de coordination. C'était dans tous les sports co, t'avais un petit peu ce syndrome de pas être très à l'aise et à l'inverse, dans un sport beaucoup plus libéré, te sentir un peu mieux.
Bah ouais, c'est exactement ça. Et puis c'est une époque où quand t'es gamin, enfin moi j'étais gamin à la campagne. À quatre ans, on m'a pas mis dans un club ou dans une asso pour faire de la coordination, pour faire le baby athlé ou pour faire le baby judo. Enfin, tu vois, c'était pas une culture des parents de t'inscrire dès que t'avais 3 ans. Donc moi, ma culture sportive, c'était d'être dans la campagne, faire des cabanes, et puis courir et marcher, prendre le vélo et jouer avec les copains. Donc finalement, à la fin, au bout des 10 ans, j'avais certainement plus d'endurance que de coordination, effectivement. Même si après, à l'athlée, je me suis pas trop mal débrouillé sur les aspects techniques et puis les aspects cordaux, mais ouais. Et après, l'aspect collectif aussi, il y a peut-être un côté asocial à la chose, mais j'arrivais pas à m'exprimer dans un groupe, en fait. Je voyais bien que j'étais pas à ma place et que j'étais toujours, il y a ces interdépendances qui me mettaient en difficulté dans le fait de jouer. Alors que là, moi, la grosse plus-value que j'ai trouvée en course à pied, c'est que j'étais libre seul. J'étais face à moi-même et face à mes rêves, à mes exigences. Et puis ça m'a tout de suite et ça m'a toujours stimulé en fait. C'est-à-dire que je pose un projet, je m'engage et je vais pas dire que c'est le copain qui m'a fait rater le truc. C'est juste que j'ai pas été au bout du truc. Voilà. Mais donc ça pour moi c'était la condition parfaite pour faire cela. Et puis finalement ce sport individuel m'a fait un réseau social de copains dans la course à pied. Qui fait qu'au final, je me suis vachement socialisé, mais pas par le jeu en fait, plus par la connaissance en fait.
Ouais, mais c'est marrant cette euh, cette aptitude, enfin cette capacité que peuvent avoir certains enfants ou non, effectivement, à se mêler à un groupe et à trouver leur place dedans. Je trouve que c'est très compliqué et c'est aussi très ingrat pour les enfants quand ils sont pas accompagnés justement par un prof de PS ou par des parents justement à trouver et à évoluer dans un groupe. Et c'est socialement c'est dur quoi. On n'est pas tous faits pour ça quoi.
Mais ouais, moi j'ai encadré, j'ai arrêté cette année, mais j'ai encadré pendant 10 ans une école d'athlètes au sein de mon club. Ouais. J'ai toujours constaté ça. Je veux dire, on fait des groupes, on fait des relais, c'est toujours le petit Kevin qui est pris en dernier, ou c'est le Kevin qui est stigmatisé dans le groupe parce qu'on sait qu'il va pas vite, parce qu'on sait qu'il saute pas loin, ou qu'il va faire rater le truc. Et donc, on est toujours vigilant en tant qu'éducateur à rééquilibrer les niveaux, mais les enfants sont pas dupes non plus. En fait, ils créent leur hiérarchie au sein d'un groupe en identifiant très bien les gens qui gagnent tout, qui courent vite. Qui sont leaders, et les leaders s'imposent assez vite, et puis il y a toujours des enfants un peu discrets qui ont un temps de retard, qui ont des difficultés moindres, et c'est comment tu les remets au centre du groupe et comment tu les revalorises. Et ça, c'est waouh, c'est un très très gros boulot quoi. Ouais, c'est pas simple, et c'était pas simple il y a 30 ans, et c'est toujours pas simple hein.
Ouais, bien sûr, ouais, bien sûr. Et puis en plus les enfants ont beaucoup d'instinct pour ça, et c'est sûr que ça peut être très dur pour certains qui se sentent un peu exclus. Et toi, et du coup, tu te sens tout de suite à l'aise à courir. Là, tu dis que c'est ton premier cross. Peut-être, je sais pas, il y a des émotions que tu te remémores, ou là, je te voyais en parler avec le sourire et revivre un petit peu le moment dans tes yeux. Est-ce que c'est un souvenir que tu réutilises aussi, peut-être, je sais pas, sur de la visualisation ou sur d'autres exercices, mais qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que l'enfant ressent à ce moment-là? Parce qu'en plus, si tu termines deuxième, j'imagine qu'il y a la joie de...
En fait, ouais, je l'utilise pas pour la visualisation aujourd'hui, parce que là, pour le coup, un souvenir qu'a 35 ans, t'imagines le truc, mais ouais, mais je suis capable quand même d'y retrouver des sensations. Enfin, c'est peut-être un imaginaire aussi, mais ouais, je le vois très bien. Je vois la forêt d'automne de ce moment, je vois le terrain boueux, j'ai une aisance, je vois que la foulée, la boue, je la passe, je suis parti cool, les copains, je les double, je me dis pourquoi je pars, je passe et qu'ils passent pas, et puis l'appétit, je me sens léger, je me sens ample dans ma foulée, je sens que c'est difficile, mais ça me porte tellement de me dire, tu vois, un peu Forrest Gump qui casse ses prothèses, là. Il y a un peu de ça, ouais, je me dis, ouah, mais il y a une découverte de mon corps qui fait que plus j'en demande, plus il accélère, quoi, et puis finalement, je finis bien sûr au bout de ma vie sur la ligne d'arrivée, mais on s'en fout parce que je suis là et je vois bien. Et ça m'arrivait sur 1000 courses. La fatigue, ça a peu d'importance par rapport à ce que tu as comme satisfaction à l'arrivée. Voilà. Et donc, et ça, ce sentiment d'avoir tout donné, d'avoir pu t'exprimer, c'est ça en fait, c'est de l'expression. Voilà, ça n'a pas de prix, ça. Voilà, pouvoir s'exprimer avec son corps et puis donner ce qu'on a à donner. Et de montrer, de te prouver à toi-même, et montrer parfois aussi aux autres, parce que à cette époque-là, tu fais aussi les choses pour exister face au regard des autres. C'est riche, quoi. Voilà. Et c'est peut-être, ouais, c'est le premier déclic que le sport m'a donné. Voilà. J'avais pas eu ça avant, tu vois. C'était pas, et là, ensuite, ça s'est bien enchaîné, même au-delà du raisonnable. Mais c'est sûr que c'est un souvenir. La forêt, je l'identifie très bien. Enfin, c'est le collège, j'y habite pas très loin encore aujourd'hui. Je peux te dire où il était le circuit. Enfin, tu vois, j'y suis pas retourné depuis 30 ans. C'est une forêt privée, mais je sais très bien où aller. Je connais le circuit. Enfin, je le vois. Et c'est très présent. C'est marrant. Ouais.
C'est dingue. Et comme tu le disais, après t'as fait de l'athlète, ça a été une révélation, et puis ça s'est enchaîné plutôt bien pour toi, et j'ai l'impression que t'as fait des super résultats en junior aussi. Et du coup, j'avais une question, c'est est-ce que il y a des signes quand tu regardes le petit Christophe de l'époque, est-ce que tu vois il y a des signes aventureurs à un futur athlète de haut niveau ou à un futur coach, tu vois? Est-ce que t'as tout de suite eu l'esprit de compétition et en même temps tout de suite, oui aussi très vite eu l'envie peut-être d'aider les autres ou d'accompagner les autres? Désolé, je te pose une double question avec ta double casquette qui m'intéresse. Mais...
L'esprit de compétition, je l'ai tout le temps eu. Ouais, ça a été. Je pense que c'est ce qui m'a tenu dans le sport. Parce qu'à 16 ans, j'avais envie de faire à 16 ans, 18 ans, j'avais envie de faire le con comme les copains. Je me suis gardé de fumer des clopes, mais j'étais avec un bon réseau qui en fumait, et j'aurais pu aussi un peu laisser tomber le sport, mais j'acceptais pas d'être de perdre une course face à quelqu'un, et je me remettais tout le temps en question. Donc l'esprit de compétition, c'est ce qui m'a tenu dans le sport un moment plus que la passion, en fait. C'est-à-dire que j'y allais pour gagner, j'y allais pas parce que ça me plaisait, j'y allais pour gagner, très clairement. Okay. Et même si ça me plaisait, mais il y a quand même quelque chose de plus fort que ça me plaît. Le foot, ça me plaisait aussi, si tu veux. Jouer après au foot avec des copains à 17 ans, ça m'aurait plu. Mais je savais qu'il fallait que je fasse de l'athlétisme pour gagner. Et puis après, l'entraînement, en fait, c'est marrant, c'est venu pareil, c'est venu assez vite parce que d'une part, dans le club où j'étais, il y avait peu d'encadrement à partir du moment où j'ai commencé à grandir dans ma pratique. C'est-à-dire à partir de cadet, j'ai pas eu un encadrement très, très suivi ou avec des entraîneurs qui étaient capables de me suivre. Donc, je me suis un peu auto-formé, je me suis inspiré de beaucoup de personnes, je suivais aussi beaucoup d'athlètes avec qui je courais et je demandais. Donc, j'étais beaucoup dans le questionnement, dans la recherche d'entraînement. J'essayais de, un peu de m'auto-gérer aussi là-dessus. Donc, j'ai vite pris un peu d'auto-gestion à partir de cadet sur mes plannings d'entraînement, etc. Et souvenir marquant, par rapport à ta première question de coach, c'est un peu quand je m'embête sur un cours de maths en première ou en terme, j'écris un plan d'entraînement sur le côté du bloc-notes, quoi, tu vois. Et je me dis, bon, allez, dans trois semaines, il y a le championnat de Bretagne de cross. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Donc mardi, je fais ci, et puis en fait, j'écrivais des plans d'entraînement pour moi comme ça. Ouais.
Ok, c'est marrant ça. C'est marrant, c'est hyper original. Du coup, c'est peut-être la partie plutôt planification et presque scientifique et analytique qui te montrait quelques signes avant-coureur, en fait.
Exactement, ouais. C'était à la fois les contenus, mais à la fois aussi me projeter mentalement dans une prépa. C'est-à-dire, j'étais capable de dire, ouais, à l'air je me souviens tous les mois d'août, avant de redémarrer l'école, je faisais ma saison, quoi. Je me dis, le mois de janvier, il y aura les championnats. Au mois de novembre, c'est la reprise. Au mois d'octobre, il faut que je m'entraîne comme ci, comme ça. Donc, j'ai toujours eu cette structuration, cette planification que je faisais vraiment pour moi-même. C'est-à-dire, je ne la partageais pas avec d'autres. Puis, je faisais des brouillons, j'en refaisais. Mais j'avançais sur un fil conducteur. Je tenais toujours des carnets d'entraînement. Donc, j'écrivais toujours mes entraînements. Tu vois, j'ai chez moi mes carnets d'entraînement de minime cadet, quoi. Donc, je les ouvre pas, pareil. Mais je pourrais les relire, ça pourrait être rigolo, ouais.
Ah ben c'est un bon souvenir, ça. C'est un très bon souvenir à garder, je pense, et à regarder avec un peu de nostalgie de temps en temps. Écoute, pour te rien te cacher, moi aussi j'avais des carnets d'entraînement. Alors j'ai fait sport études tennis, donc j'avais aussi de la prépa physique, et j'avais aussi des carnets d'entraînement où c'était plutôt sur de la technique et où je notais tous mes tournois. Mais je suis très triste parce que je les retrouve pas. Et effectivement, je pense que ça m'aurait fait plaisir de les revoir, tu disais que tu les avais pas revus, mais c'était déjà d'une bonne qualité. Je me rends pas compte, tu vois, à quel point un enfant de 17-18 ans peut avoir un bon programme ou un bon plan d'exécution. Dans tes souvenirs, ça te semblait cohérent ou complètement loufoque? Je sais qu'il y a eu beaucoup d'évolutions aussi sur l'accompagnement des sports d'endurance.
À cet âge-là, j'étais sur du demi-fond court, cross. Donc, il n'y a pas eu tant que ça de changement dans ce qu'on proposait dans les entraînements. En termes de qualité, entre ce que je voulais faire et ce que je faisais, c'est dans tous les plans, il y avait toujours un décalage. Par contre, en termes d'analyse, je crois que c'était assez précis. Tu vois, j'étais capable, je mettais échauffement, les séances, la séance, les temps de passage sur chaque session si je faisais du fractionné, mes sensations, la météo, je suis pas en forme, faut que la semaine prochaine je bosse ci, etc. Donc j'étais capable de formuler des choses, faire une vraie analyse de la situation et puis prendre des décisions c'était sur un carnet à spirale là, et je tirais un trait chaque jour et je faisais mes stats en fin de semaine, combien de bornes j'ai fait, combien d'heures j'ai passé. Non, je crois que c'était assez riche, et limite j'ai presque envie de dire que c'était plus riche qu'aujourd'hui où je suis sur Strava où en fait je balance la trace GPS. Et puis, ouais. puis je passe au reste, quoi. En fait, je fais pas une analyse fine où je formule pas ce que j'ai fait, où je mets pas en ligne, surtout. Ça va pas bien, le mollet m'embête, tu vois, t'es pudique là-dessus, c'est un réseau social, tu mets pas tous ces petits trucs perso. Et au final, tu t'épargnes, alors il faudrait le faire en parallèle, mais là, je le fais plus, mais, finalement, un outil qui se veut avancer, finalement, te prive de quelque chose que moi, je faisais sur un cahier à spirale et qui avait vachement plus de qualité, quoi. Alors, certes, je ne savais pas exactement si j'avais fait 12 km ou 13 km 500, mais, globalement, c'était pas bien grave, hein.
Ouais, c'est vrai qu'il y a plus le côté réseau social bloque un petit peu la partie introspective et la partie transparence avec soi-même, je trouve, tu vois, où on va, comme tu l'as dit, être pudique sur certains sujets et on va pas forcément aborder les petits points faibles ou les axes d'amélioration ou même les émotions positives juste par souci de par pudeur ou humilité, on va pas avoir tendance à se dire ah bah tiens, aujourd'hui je me sentais super bien, j'ai couru super vite et j'avais le sentiment de pouvoir survoler tous les défis, quoi. Donc c'est vrai.
Ouais, enfin, les réseaux sociaux sont plus calibrés pour faire ça quand même que dire ça va pas, je suis au fond du trou, tu vois.
Mais ça dépend des personnalités,
c'est...
je trouve.
Ouais,
tu vois,
ouais, oui, c'est vrai. La personnalité joue beaucoup là-dessus. Il y a des gens pudiques qui mettront juste l'analyse brute de leur séance. Mais après, le côté m'as-tu vu, j'ai battu des coms et je mets la belle séance dont je suis fier et je valorise bien les temps. Ça existe quand même et quand t'es mal et que t'as du mal à exprimer, là c'est sûr tu le gardes pour toi et dans un milieu où tout le monde monte un peu sa meilleure face à la fois sur Instagram ou sur Strava, parfois quand t'es sur ces réseaux là, ça fait mal à la tête, quoi, parce que t'as l'impression que t'es hors norme, alors que non, la fatigue, la blessure, le doute fait partie de la pratique sportive, quoi.
Ouais. Et du coup, c'est quelque chose que tu demandes toi aujourd'hui aux athlètes que t'accompagnes de absolument tenir un cahier dans lequel ils peuvent vraiment s'exprimer à 100% sans avoir cette contrainte sociale, parce que tu vois, en t'écoutant je construis ma réflexion en te parlant, mais c'est vrai que tu vois, le fait de vouloir montrer la meilleure version de soi-même entre guillemets, c'est aussi une excuse pour se mentir à soi-même et du coup aligner les bonnes choses avec ses objectifs, quoi.
Bah moi, c'est la base de mon coaching, en fait. C'est-à-dire que c'est pas sur un cahier personnel, c'est le cahier que l'on partage entre lui et moi, entre elle et moi. C'est-à-dire qu'on a un espace partagé que je partage avec personne d'autre et que lui ne partage pas, ou s'il veut le partager, c'est lui qui a la main sur les partages avec qui il veut faire. Mais au mieux, c'est son épouse et puis ou un copain, mais même pas. Donc c'est un espace où là. Finalement, quand il fait un entraînement, il me ramène les données quantitatives. J'ai fait X kilomètres, j'ai passé tant d'heures, j'ai fait tant de dénivelé et mes temps de passage sur les 400 étaient de temps. Voilà. Je te mets le lien de la sortie Strava. Ok, très bien. Ça, je prends 10 secondes à regarder ça. Parce qu'au final, c'est moi qui lui ai demandé de faire ça. Je lui ai demandé de faire 15 bornes, 10 fois 400, de faire des temps, machin. Bon, je regarde s'il est dans les clous. Mais par contre, à côté, il y a toute une case, c'est la donnée qualitative, où là, il me dit, ce matin, ouais, j'y suis allé ce matin, parce que cet après-midi, j'avais pas le temps, j'ai pas pu la faire avec le groupe, en plus, la piste, elle était fermée, donc j'ai fait ça sur la route, ça m'a gonflé, j'avais du vent de face, et puis le mollet, il m'embête, j'arrive pas, tu vois, dimanche dernier, c'était déjà la galère à l'entraînement, le 10 bornes dans 10 jours, c'est mort, quoi. Bon, voilà, tu prends ça comme tu dois le recevoir. J'ai pas de souci. Il me dit à l'inverse, non, j'ai les sensations de fou, j'ai battu tous mes records. Bon, bah voilà, en fait, je prends ce qu'il a me donné et comment il a ressenti le chose. Et pour moi, c'est vachement important. Ça me permet de voir comment il s'installe dans la prépa et comment il est à l'instant T et comment, par rapport à là où je veux le mener ou là où on veut aller, est-ce qu'il est dans les clous? Est-ce que la dynamique est bonne ou pas? Mais ça, jamais il mettra sur ses réseaux. En fait, c'est un truc entre lui et moi. Et puis moi, c'est là où je fais le régulateur. Soit je dis, c'est OK, y a rien à dire. Soit je tamponne en disant, non, mais attends, t'affoles pas, c'est normal, tu sois au bout du truc. La course est dans 10 jours, on est en fin de cycle. Maintenant, c'est 10 jours de récup, ça va aller de mieux en mieux. Et puis, dans 10 jours, tu seras en forme. C'était la dernière séance, normal que tu sois un peu fatigué. Ou alors, un côté rassurant, ou un côté, effectivement, moi non plus, je comprends pas. Il faut qu'on voit. Attends, je vais changer le plan. Et puis, on modifie. Donc effectivement, la moelle de mon coaching, elle est pas dans euh, elle n'est pas dans le quantitatif. Elle est vraiment dans comment le gars s'inscrit dans ce que je lui demande et comment lui il s'inscrit là à l'instant T dans la prépa qui lui est demandée et par rapport aux objectifs qu'il s'est fixé lui-même quoi. Et est-ce qu'on est dans les clous? Est-ce qu'il faut choisir? Est-ce qu'il faut un plan B? Ou est-ce qu'il faut faire de l'évidement et se dire non, mais en fait, en 10 km là, c'est pas la peine. On va le faire dans trois semaines plus tard. Voilà.
Ok. Et du coup, j'imagine que tu réponds du coup par rapport justement à cette fameuse question, enfin cette partie un peu plus qualitative. Mais est-ce que tu la guides aussi? Je sais pas, tu vois, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui ont envie de tenir un cahier d'entraînement, comment ils peuvent le structurer? Est-ce que il y a des questions un peu à se poser sur cette partie qualitative ou au contraire tu laisses beaucoup plus de liberté justement à l'athlète pour s'exprimer et vraiment dire ce qui lui passe par la tête après son entraînement ou à la fin de sa journée?
Bah là c'est un peu comme tu disais tout à l'heure, ça dépend de la personnalité. Il y a des personnes qui sont très très aptes à écrire parce qu'ils sont dans l'écrit, ils ont de la facilité avec de l'écrit, et il y a des personnes qui ont des difficultés dans l'écriture et qui vont pas exprimer grand chose. Donc il faut trouver aussi des outils qui permettent d'exprimer sans avoir à faire une phrase en ayant peur de faire de fautes d'orthographe, quoi. Tu vois, c'est un peu ça. Alors, si c'est un cahier intime, on s'en fout des fautes d'orthographe. Bon, moi, je pense que poser ses émotions, les écrire et se dire ce qu'on a à dire, même si c'est à soi-même, je trouve que ça a un réel intérêt parce que c'est un temps de pause. C'est un temps où on se dit les choses. On arrête d'avancer dans le flux de la vie, mais on fait un stop and go. On se dit bon, alors là, voilà, et on écrit des choses, on les verbalise. Les écrire, c'est bien parce que ça laisse une trace. L'entraînement suivant, ça permet de jeter un coup d'œil, de se dire ah ouais, mais la semaine dernière, qu'est-ce que je pensais de ça? Ou moi, d'une année sur l'autre, quand j'étais dans le bloc dans ma carrière. J'étais capable en novembre, de regarder novembre de l'année passée et me dire ouais, mais je suis en avance ou en retard par rapport à l'an passé. Ah non, mais la dernière, j'avais fait ça. En fait, on reste souvent aussi sur des fausses images ou des faux ressentis. On avait l'impression d'avoir fait énormément il y a un an. Puis quand on regarde concrètement, on se dit bah non, en fait, j'ai pas fait plus. Cette année, je m'entraîne plus. Voilà. Et pour revenir à ta question, donc, moi, j'utilise aussi sur le doc qu'on utilise, c'est un code couleur. Voilà. Et il y a deux cases à remplir, c'est la météo du jour et la météo de la séance. Météo du jour, c'est Barthélémy, aujourd'hui, tu vas faire ta séance ce soir, tu t'es inscrit comment dans ta journée? Bon, ah, c'était super, pendant c'était le bazar, je devais faire un podcast avec Christophe, ça s'est pas bien passé, j'ai pété mon ordi, et puis après j'étais à la rue toute la journée. Du coup, la séance de ce soir, c'était le bordel, j'y étais pas, j'y suis allé vraiment pour sauver la journée, mais la journée du matin, elle était mal engagée, quoi. Voilà. Ouais. Ok. Et comment s'est passée la séance? Eh ben, ça m'a fait vachement de bien. Ah, ça m'a défoulé. Je suis rentré le soir, j'étais apaisé. Donc, journée noire ou journée rouge parce que c'était une sale journée, parce que t'as eu une charge mentale et plein de trucs à gérer qui t'ont pas fait plaisir. Par contre, la séance s'est vachement bien passée. Et du coup, séance verte, et tu mets juste un rouge, noir et vert. J'ai même pas besoin de savoir pourquoi finalement t'as cassé ton ordi, etc. Et à l'inverse, tu peux avoir parfois, et ça, c'est pareil, à l'instant T, ça a pas beaucoup de valeur, mais par contre, quelqu'un a l'habitude souvent, quand tu demandes une notation entre 0 et 10, souvent les gens, ils notent 6, 7, 8, tu vois, ils veulent pas être euphoriques, mais ils veulent pas être dans le négatif. Par contre, tu peux avoir 10 jours, ils vont te noter 6, 7, 7, 7, 6, 5, 6, 7, 7, bon. Puis à un moment, ils vont te noter 4, 3. Ils vont rien te dire de plus. Mais tu regardes qu'à un moment, il y a un message qui veut passer, ils sont pas capables de te le dire comment, ou ils ont pas envie de te le dire parce qu'ils ont une certaine pudeur, mais ils sont capables de comprendre que là, non, ça va pas, quoi. Tu vois, soit sur la météo du jour, c'est-à-dire, ouais, le boulot, ça m'a pris la tête, je me suis pris la tête avec mon patron, j'ai une charge de travail, et là, j'ai un gros stress. Et en fait, ils vont pas te le dire. Ils disent, ouais, on est là pour parler de sport avec Christophe, je vais pas lui faire chier avec mon boulot. Mais par contre, météo du jour, 3, 4, 2, 1. Bon, ben là, t'es en droit de poser la question ou de dire, tiens, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, pourquoi il donne un signe de ce type? Et pareil, dans les sensations, t'as des gars qui vont tout le temps dire, non, mais la séance, ça s'est bien passé. Parfait, nickel, super, parfait, nickel, super, parfait. Et puis pendant 10, 20 jours, 30 jours, puis à un moment, ils te mettent un petit orange, un petit rouge. Et voilà, donc c'est toujours intéressant d'avoir ces petites variations et puis de laisser plusieurs canaux d'expression pour les personnes, parce que l'écrit c'est bien pour certaines parce qu'elles savent parler ou elles savent écrire surtout, parfois parler, parfois juste une couleur, mais en tout cas, à un moment, faire un stop et se dire, là, je suis comment? Et puis, quand tu as fini ta séance, se dire, cette séance, je voulais faire quoi? Un footing cool. Là, je finis comment? Ben non, en fait, j'ai les mains sur les genoux, donc j'ai pas fait un footing cool. Pourquoi? Ouais. Parce que je suis fatigué ou parce que j'ai fait le fou? Non, en fait, je suis pas fatigué, j'ai fait le fou, j'ai des trop bonnes sensations, je me suis fait prendre au piège des trop bonnes sensations. Bon, bah, c'est pas grave. Donc, du coup, demain, je fais vraiment un footing cool. Voilà, c'est juste ça. C'est juste d'être capable d'analyser ce que je voulais faire, ce que j'ai fait et comment je réajuste la suite par rapport à ce que j'ai fait et mon programme. Ça demande pas. Mais parfois, on enchaîne des choses sans prendre conscience vraiment de ce qu'on a fait. En fait, on est en mode automatique, on est des exécutants, mais on filtre un peu parfois on se le dit pas, quoi. On continue sur l'exécution qu'on nous a demandé de faire. Et le problème d'un plan d'entraînement sans un tiers qui regarde, c'est d'être un parfait exécutant, dire non, mais dans le papier, c'est marqué comme ça, comme ça, comme ça. Oui, mais la vie, c'est pas comme ça, comme ça. La vie, c'est fait de plein d'embrouilles et plein d'opportunités à côté qui fait que, et du coup, à un moment, on se respecte plus pour tenir quelque chose sur lequel on s'est engagé tout seul, en fait. Donc, c'est important de garder le respect et comprendre ce que l'on a fait. Ouais. Voilà. Alors, c'est un peu ce que j'explique, mais je sais pas si je suis très clair.
Si, non, mais super clair, super clair. Et je trouve l'idée un peu des codes couleurs et aussi de, enfin, l'idée aussi de mettre des notes, je trouve que c'est très intéressant parce que ça te permet effectivement d'avoir une référence ou une espèce de moyenne et de te positionner un petit peu par rapport au reste. Et je trouve aussi l'idée qui est très intéressante, c'est de noter les deux, de noter ta journée et noter ton entraînement. Et c'est vrai que des fois, tu peux avoir une super journée. Et du coup, t'es un tout petit peu moins bien à l'entraînement et du coup, tu peux te dire, ah bah, je comprends pas, j'étais super bien aujourd'hui, je me suis levé du bon pied, j'ai tout réussi, tout me souriait. Et à l'entraînement, bon, un petit grain de sable, un petit truc. Et du coup, l'entraînement perd un peu de la saveur. Ou à l'inverse, bah voilà, une journée un peu chaotique et sur lequel l'entraînement peut justement faire vraiment du bien, faire soulager. Enfin, je trouve que ces deux notions, elles sont super intéressantes. Tu vois, moi, j'ai mon carnet aussi à côté, donc tu vois, je vais m'en inspirer.
Et la dernière chose, peut-être, si c'est un carnet intime, enfin un carnet d'entraînement perso, c'est d'avoir avant de démarrer la vision d'où on veut aller et comment on veut s'y prendre, même si on n'a pas de grosses compétences, tu vois, même si on n'a pas on n'est pas entraîneur, on n'a pas une expérience. On a toujours une idée de ce que l'on veut faire, de ce que l'on aimerait faire et comment on veut préparer le marathon de Paris tout seul. Donc, on s'inspire peut-être d'un plan d'entraînement, mais aussi on le réintroduit dans son quotidien. Et surtout, après, on se dit, à l'instant T, comment je suis par rapport à là où je voulais aller? Voilà. Est-ce que je suis en retard? Est-ce que je suis en avance ou est-ce que je suis dans les temps? Si je suis en retard, comment je fais? Soit pour attraper le retard, mais ça, c'est des fois difficile parce qu'on se remet de la charge et on se blesse, mais on se dit, bon, bah, c'est pas grave, je suis en retard, mais je vais feinter un petit peu pour essayer de me remettre à peu près à jour. Et c'est toujours aussi de pas courir après son planning, de pas culpabiliser si on est en retard, et ça sert à rien non plus de s'énerver à prendre de l'avance. Et c'est avoir un peu une feuille de route, même si c'est quelques traits, c'est-à-dire les semaines où je vais travailler, les semaines où je vais récupérer, les semaines où je vais faire une compétition, de repérage, les semaines où je vais être tranquille. Donc, en fait, avoir une vision. Alors, quand on a quelqu'un qui l'accompagne, moi, c'est mon boulot avec les athlètes, c'est d'avoir donné une vision sur l'année, donner une vision de la saison et donner une vision sur la préparation sur les 6, 7, 10 prochaines semaines. Mais c'est quand on est tout seul, bah, c'est aussi de s'écrire cette vision pour se dire, est-ce qu'on est en cohérence? Est-ce qu'on n'est pas perdu? Si t'es tout seul dans la nature, tu sais pas où tu vas, t'es perdu. Si tu sais où tu veux aller, là où tu, et si tu vois à peu près où tu es, tu sais ce qu'il te reste à faire, quoi.
Ouais, c'est très intéressant d'avoir une vraie vision d'ensemble et d'être capable de mettre sur un calendrier un petit peu les temps forts et les temps un peu plus faibles, les temps de récupération, les temps qualitatifs. Ouais, c'est vrai. Mais c'est ça qui est le plus dur à faire, je trouve d'ailleurs. Enfin, quand on essaye de s'y prendre seul, même tu vois, professionnellement, moi j'aime bien me faire des plans de 90 jours où je me dis bon voilà, bah sur 3 mois je vais essayer telle chose, et je vais essayer d'avancer sur telles actions. Et c'est vrai que c'est challengeant effectivement de se dire de prévoir un petit peu la route. Autant c'est facile de prévoir les actions, autant de prévoir la route et à quel moment les faire, c'est plus compliqué, quoi.
Ouais, et en fait, moi, par expérience, je trouve qu'on dévie souvent par trop d'ambition. C'est-à-dire que quand on écrit un plan, on veut tellement bien faire qu'on rajoute énormément de choses. Et puis finalement, on se fait déborder au bout de 10 jours parce qu'on a décidé, je sais pas, on revient sur une préparation de Paris. Bon, alors il faut que je fasse des étirements. Bon, il faut que je fasse travailler ma vitesse. Bon, ouais, il faut aussi que j'aille en salle faire un peu de muscu. Oui, bon, et puis ce serait bien quand même que, voilà. Et en fait, on rajoute des choses parce qu'on pense que c'est le truc parfait. Et puis, bah ouais, le truc, il est tellement parfait qu'il est pas tenable, en fait. Et donc, c'est aussi comment on met de la sobriété dans la chose, un peu de légèreté, et puis se dire qu'il y a plein de chemins pour y aller, mais commençons par un chemin tranquille, posons des choses, et puis à un moment, arrêtons de faire des plans tous les semaines pour recommencer à zéro, mais engageons-nous, quoi. Et même si c'est très modeste, engageons-nous dans un truc, et puis avec le sentiment, bah, en tout cas, qu'on avance, quoi. Vaut mieux marcher tous les jours que courir une fois par semaine, quoi. Tu vois, à la fin de la semaine, t'auras fait plus de kilomètres en marchant tous les jours qu'en courant une fois dans la semaine. C'est un peu cette idée. Ça va pas vite, mais en tout cas, c'est constant et ça progresse. Et donc, cette idée parfois de vouloir le plan parfait, le plan ultime pour aller à un objectif, ça nous fait procrastiner à mort parce qu'on est devant une montagne et on se dit ouais, par où je commence, et ah zut, j'ai raté, donc tout s'effondre. Mais non, mets-toi dans l'action, quoi. Et du coup, des lignes générales, mais pas trop de détails, et puis se laisser aussi cette liberté d'agir dans le quotidien en fonction de ce qu'on en est, quoi.
Ouais, et puis d'un point de vue sportif, c'est beaucoup plus facile, je trouve, de se rajouter, si tu veux, des petits plus, tu mentionnais effectivement des étirements, une séance de préparation physique, des automassages ou même une séance de visualisation, par exemple, tu vois. C'est beaucoup plus facile de se rajouter des petites choses quand on a des petits trous en se disant, ah, bah, tiens, j'ai une option, tiens, pourquoi pas, je le ferais pas, même si c'était pas prévu, plutôt que effectivement, de s'en mettre beaucoup et d'avoir 3 heures par jour dédiées à son plan et finalement d'être incapable de caler ça dans une journée, parce qu'une journée, ça fait 24 heures et que on vit dans un monde assez freiné et que c'est difficile de trouver 3 heures dispo pour ça, quoi.
Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Ouais, vaut mieux partir petit et faire un peu plus que partir gros et rater des choses. Et là, pour le coup, en termes de prépa mentale, on se dévalorise, on est dans une dynamique hyper, hyper négative, quoi, parce qu'on se fait un dialogue interne. Ouais, je suis nul, j'ai encore raté un truc. Bon, bah voilà, déjà là, on se tire une balle dans le pied. Hein.
Ouais, c'est vrai que pour le dialogue interne, c'est pas top. T'as mentionné la PPG et récemment avec Diego, vous avez écrit un livre justement sur la préparation physique des trailers. Alors le titre, c'est Fit Run Challenge 100 jours, un programme renforcement en trail facile et complet. Moi, je me posais un petit peu la question, pourquoi est-ce que vous avez eu envie d'écrire ce livre? Pourquoi la préparation physique? Pourquoi 100 jours? Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu quelle est la genèse de ce travail et comment, enfin ouais, d'où vient la genèse de ce travail? Pourquoi la préparation physique et pourquoi 100 jours?
Alors pourquoi la préparation physique? Parce que pour moi, avec Diego, avec qui je travaille sur Fatlec, c'est fondamental de pas seulement courir pour être performant en course à pied, mais rajouter des programmes de renforcement, des programmes plus globaux de préparation physique et pour être apte à faire la course à pied, pour en préventif des blessures, etc. Donc c'est quelque chose qu'on a tout le temps intégré dans nos préparations depuis que je travaille. J'essaye de mettre un programme de préparation physique, sauf que faire de la préparation physique, on revient à la discussion de tout à l'heure, à un athlète dans la continuité, c'est hyper dur, en fait. C'est-à-dire que tout le monde veut faire du renfo, tout le monde en fait pendant 3 jours et tout le monde arrête au bout de 6 jours. C'est-à-dire, t'achètes un TRX, t'achètes un Swiss Ball, tu prends plein de trucs, des haltères, tu prends un abonnement à la salle de sport, mais t'es vraiment motivé, tu dis non, mais là, il faut que je prenne des abdos, je suis pas assez solide au niveau des cuisses, etc. Et puis, comme ça s'épuise, le TRX, il reste au fond du garage, le Swiss Ball, il t'embête dans ta salle à manger, tu y touches plus, enfin bon, et c'est très concret, c'est-à-dire que tout le monde veut s'y mettre pour de bon, tout le monde se dit que l'hiver, c'est le bon moment pour faire ça, parce qu'il y a moins de compétition. Et puis à la fin de l'hiver, ouais, bon, on a papillonné un petit peu. Il y a eu quelques vidéos sur YouTube qu'on a fait, mais je suis revenu avec des courbates pendant 4 jours. Et puis du coup, ça me donne pas envie d'y retourner. Et puis en plus, les exercices qu'ils proposent, c'est hyper balèze parce que c'est des gars du CrossFit et puis ils sont gainés comme des Spartans. Et toi, t'as l'air ridicule. Et donc en fait, bon voilà. Donc le constat, il était là. Et à un moment, moi, j'en ai eu marre d'entendre à cette époque, parce qu'on fait les bilans de saison à cette époque, d'entendre, ouais, ben là, cette année, cet hiver, il faut qu'on s'y mette pour de bon, quoi. Et à un moment, j'ai pris Diego, j'ai dit, bon, ok, mais là, on va vraiment les mettre pour de bon, quoi. Avec deux idées, c'est un, on va pas faire beaucoup, mais on va faire tout le temps. Voilà, dans l'esprit un peu endurance. Donc, pas beaucoup, c'est un quart d'heure par jour. Donc, arrêtez de me dire que vous avez pas le temps. Si vous avez un problème de placer un quart d'heure par jour, votre problème, c'est pas le renfo, c'est que vous avez un problème d'organisation. Donc, à la limite, j'ai mis un peu les athlètes face à parfois à leurs excuses entre, ouais, j'étais débordé, j'ai pas le temps. Mais si, t'as le temps, en fait, parce que t'as été courir une heure, mais t'as pas le temps de vouloir passer, ton renfo. C'est parce que t'aimes pas le renfo. Donc, le challenge, je veux dire, c'est que un quart d'heure. Si t'as pas le temps d'un quart d'heure, arrête, quoi. Arrête de faire du sport ou change ta vie, parce que c'est quand même, voilà, il y a toujours moyen de placer un quart d'heure. Et puis après, c'est dans la continuité pour qu'à la fin de l'hiver, on place quelque chose qui a vraiment du sens, qui a une vraie construction, et quand on sort de l'hiver, on se dit, ah ouais, ok, ça y est, effectivement, j'ai des abdos, j'ai des dorsaux, je sais me gainer, etc. Donc, moi, comme un idiot, j'ai dit, bon, on va faire un défi 100 jours. Mais vraiment comme un idiot, tu vois, parce que je me dis, ouais, 100 jours, même Diego m'a dit, attends, ouais, 100 jours, c'est chaud, quoi. Je dis, ouais, mais on y va, on écrit une séance d'un quart d'heure. Un quart d'heure, c'est pas long non plus. Donc, on a démarré comme ça. On a fait ça l'an passé, 1er novembre, on avait démarré, et on a fait ça avec notre groupe de coachés. C'est-à-dire, c'était quelque chose en interne. Ouais. Tous les jours, on leur mettait une séance de 15 minutes en ligne, et elle disparaissait 24 heures plus tard. Donc, ça donnait aussi l'idée que, ah ouais, si je l'ai raté, j'ai raté, quoi. Voilà. Donc, tu peux pas me la... Non, trop tard. Voilà. Et donc, les gars, ils étaient obligés de s'inscrire, ou les filles, elles étaient obligées de s'inscrire dans cette continuité. Et donc, ça s'est super bien passé. Il y a eu un réel engouement parce qu'on partageait aussi les séances. Il y avait toujours un plan A et un plan B. On faisait ça sans achat de matériel. C'est tout avec le poids du corps. Des exercices plutôt simples dans un premier temps, de préparation physique. Puis après, on a commencé à glisser parce que les athlètes avec qui on travaille, ce sont des coureurs à pied, des trailers. Donc, on a glissé aussi sur une préparation plus spécifique sur du trail. Et donc, à la fin des 100 jours, on a appelé que, voilà, on avait 100 séances par jour. Et ce bénéfice, c'est un, ça a été chouette. Les gens ont vachement suivi. Il y a eu une réelle plus-value sur la saison. On a senti les athlètes moins blessés, beaucoup plus solides sur leur course. L'envie de continuer, de se dire, ouais, est-ce qu'on fait des rappels, etc. Donc, on a fait des rappels, mais on n'est pas resté 300 jours à faire 15 minutes par jour. À un moment, tu vois, il faut arrêter, il faut aussi passer à autre chose. Et puis, le corps de notre sujet, c'est quand même de faire de la course à pied, d'être dehors, c'est pas d'être sur un tapis de yoga toute notre vie. Et donc, voilà. Et cette histoire, elle devait s'arrêter là. Et en fait, parallèlement, moi, je travaille un peu avec Nature Trail et on a commencé à faire des petites sessions de renfo, puis je les ai mis au courant du challenge que l'on faisait, ça les intéressait, et ils se sont dit, ah, on peut faire un livre. Si ça t'intéresse, on fait un livre de votre histoire des 100 jours. Et, nous, on s'est dit, ouais, facile. En plus, on a les 100 jours en archive, ça va être vite fait, bien fait, quoi. Ouais. Deuxième erreur. C'est qu'entre un format PowerPoint en ligne avec des gens que tu connais, et un format papier sur un livre avec des gens que tu connais pas, bon, il faut un peu professionnaliser et puis reprendre un peu tout de A à Z, quoi. Et donc, du coup, ça nous a demandé un temps de travail et de reprise de toutes les séances de dingue. Et du coup, on a travaillé avril, mai, juin dessus quasiment. Et il a été imprimé en septembre. Et là, il est en vente depuis le 21 septembre. Ouais.
Trop cool. Bah écoute, c'est une super idée, tu vois, pour avoir accompagné justement physiquement des coureurs à pied. Et c'est vrai qu'il y a un vrai, je l'ai constaté directement, il y a un vrai challenge à composer des bonnes séances, parce que comme tu l'as dit, la majeure partie des gens qui courent, ils prennent du plaisir à courir et pas forcément à le passer sur un tapis de yoga. Et si tu surcalibres une séance, ils vont se sentir un peu lésés dans leur préparation parce qu'ils vont avoir des courbatures et ils vont pas se sentir bien. En même temps, si tu fais quelque chose de trop léger, quand t'es face à des sportifs, ils te disent bon, là j'ai rien senti, et du coup ta séance elle vaut rien. Et du coup, ils se demandent si c'est vraiment utile de le refaire le lendemain. Et je pense que ouais, il y a un gros. après je connais pas assez bien, tu vois, le sur le trail, le, on va dire, la proportion des gens qui font vraiment de la PPG ou qui en font pas, mais c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup à y gagner, enfin je pense que le nombre de bénéfices est vraiment vraiment énorme, quoi, parce que bah il y a beaucoup de muscles profonds, le dos peut se relâcher, avoir une belle foulée, ça se travaille aussi, et ça passe par le travail du dos et du haut du corps, et quels sont peut-être, ouais, du coup, peut-être, je suis assez curieux, bon, j'ai pas le livre sous les yeux, mais je suis assez curieux, quels sont un petit peu les points sur lesquels vous essayez de vraiment faire progresser les sportifs? Est-ce que ça va être plutôt sur la partie gainage? Est-ce que c'est, je sais pas, le renforcement des mollets ou plutôt des jambes? Quels sont un peu les points d'intention pour un trailer, tu vois, qui se dit, ok, faudrait peut-être que comment un trailer peut se dire, ah, là, il faut que je fasse de la préparation physique, là, il faut que je m'y mette?
En fait, notre façon de faire, c'est d'abord une bonne partie du livre, c'est de la préparation physique générale, c'est-à-dire qu'elle peut être à la fois pour le trailer, à la fois pour le coureur à pied qui fait un marathon à 10 km, et puis un cycliste ou un tennisman. C'est l'idée de se dire, bon voilà, j'ai un corps, comment je le mets en mouvement autre que dans mon mouvement spécifique de courir, taper dans une balle. Donc c'est travail d'abdos, travail de pompe, gainage. Ça c'est, on va dire, c'est la transversalité de tous les sports d'avoir un corps global solide et qui te sert. Donc c'est du travail de gainage, abdos, pompe, squat jump, etc. Après, la deuxième partie, c'est une partie spécifique au sport. Donc d'abord de la course à pied, parce que le trail c'est quand même de la course à pied. Donc c'est du travail de foulée, travail de proprio-cheville. Travail de bond, voilà, qui permettent de prendre du pied, travail aussi de d'explosivité, saut, contre-saut, pliométrie. Et puis ensuite, la troisième lame, c'est orienter un peu plus trail, avec la spécificité du trail, c'est être capable de courir en tout terrain, donc développer encore un peu plus la proprio, être très solide. Ouais. Dans les descentes et pas s'effondrer dans les descentes ou pas avoir des courbatures de malade quand on descend un col. Donc c'est beaucoup de travail d'excentrique sur les quadriceps.
Ouais.
Et puis après on mêle ça aussi avec d'autres portes d'entrée comme OK, je suis fort, mais comment je me relâche aussi? Donc un peu d'assouplissement, comment je respire, travail autour de la respiration. Donc on a aussi au moins une fois par semaine dans ces 100 jours, un moment, un temps d'arrêt où on est plus sur de la mobilité, sur de la respiration et sur des choses calmes. Donc voilà, en fait, c'est cette idée d'avoir un programme vraiment global, progressif. Et puis, tu disais tout à l'heure, parfois, les gens, ils quittent, ont l'impression d'avoir rien fait parce qu'ils n'ont pas de courbature. Ouais, mais le mythe de la courbature, c'est, quand on a des courbatures, c'est qu'on a été un petit peu trop loin, quoi, tu vois, et qu'à un moment, quand on peut plus marcher pendant 3 jours, c'est qu'on a vraiment, soit notre corps n'est déjà pas adapté à ce qu'on lui a demandé, et puis qu'on a poussé un peu la dose un peu haute, quoi. Et le problème de cette dose un peu haute, c'est soit on se blesse, parce qu'on, surtout sur des muscles un peu sensibles, tu vois, tous les chaînes postérieures du coureur, dès que tu travailles ischio, fessier, mollet, si tu mets vraiment un peu de charge, on est faible là-dessus et tu blesses quelqu'un en 3 jours en lui mettant 2 séances, une séance d'école de course un peu péchu, une séance de plio, travail de bond sans préparation physique au préalable, mais tu le blesses en 3 jours, c'est fait, hein, voilà, et il traîne ça pendant 10-15 jours derrière. Donc c'est très facile de faire des bêtises. Donc c'est aussi se dire, bah ouais, j'ai peut-être l'impression d'avoir rien fait, bah si, t'as quand même fait un quart d'heure, très bien, demain tu refais un quart d'heure. Et laisse le temps faire, laisse le temps s'inscrire dans ta préparation. Et nous, sur le livre, on fait 5 journées test. Tu vois, sur 100 jours, on répartit 5 journées test. On fait une le premier jour, enfin le cinquième jour, et puis après on en fait une tous les 20 jours, 25 jours. Ça permet de voir, est-ce que en temps de gainage j'ai progressé, est-ce que je fais plus de pompes, est-ce que je fais plus, ah bah ouais, en fait je progresse. Ah, c'est marrant. Voilà. Alors il y a des journées où il y a des courbates un petit peu, il y en a où il y en a pas du tout. Mais c'est surtout pas l'idée de surdimensionner ces séances, quoi. Et le quart d'heure, pour ça, c'est bien, parce qu'au bout d'un quart d'heure, tu peux mettre un peu la misère, mais tu rentres rarement dans quelque chose qui te met en difficulté, tu récupères quand même assez vite le lendemain, quoi.
Ouais, bien sûr, ouais. Non, et puis c'est un double avantage aussi, je trouve, le quart d'heure, c'est que tu peux, toi, en tant que coach, aussi faire des séances très courtes et du coup beaucoup variées et du coup ne pas faire tomber l'athlète dans la lassitude. Parce que si tu on voit beaucoup de programmes, tu vois, sur 50 jours, sur 100 jours, ou ah tiens, tous les jours, tu vas faire une pompe en plus, ou tous les jours, tu vas faire un squat en plus. Ouais. Non, mais au bout de 100 jours, t'en peux plus. Enfin, c'est lassant. Et justement, c'est pour ça que je te posais aussi la question, comment est-ce que tu rajoutes une dose de spécificité? C'est que, je pense que, ouais, il y a plein de choses à faire, justement, sur les phases excentriques, beaucoup de choses à faire sur la proprioception. Et là, le champ des possibles, il devient infini. Donc,
ouais, puis nous, l'idée de mettre du jeu, c'est, bon, déjà, dans notre coaching, c'est, enfin, ma boîte, elle s'appelle Fartlek. Hein. Donc, Fartlek, c'est jouer dans la nature, utiliser la nature comme terrain de jeu et de s'amuser avec le terrain, avec son voilà, et le renfort pour moi c'est ça aussi. Et d'ailleurs la difficulté au départ qu'on s'est posé entre le passage du PowerPoint au livre, c'est qu'en fait sur le PowerPoint on est avec des athlètes connus, on avait une certaine familiarité en fait, tu vois, on faisait des jeux, on les chambrait, on se mettait en scène aussi en disant bah moi je suis très clairement, à titre perso, je suis nul en renfo. Je déteste ça, mais je sais qu'il faut que j'en fasse. Donc, j'étais aussi capable de me dire, ouais, voilà, j'ai fait 25 pompes, je suis au bout de ma vie, donc ça faisait marrer tout le monde. Puis, à un moment, quand on a écrit le livre, on se dit, ouais, mais bon, ouais, il faut quand même qu'on soit sérieux, c'est un livre, quoi. Puis, à un moment, on a lâché l'affaire, on se dit, non, en fait, on sait pas faire ça, on est peut-être potache, on a une légèreté, mais, tu vois, moi, je m'inscris pas dans une histoire de, moi, je fais le renfo. Pour moi, c'est un support pour être bien en courant. C'est pas une fin en soi. Donc, que je suis nul en pompe, que j'ai des bras comme ça, que j'ai et que j'ai des quadris super forts parce que je fais du trail, et ben c'est ma configuration de coureur. Et puis, je suis pas là pour aller pour faire des tractions. Ça me va bien, mais c'est aussi à un moment se prendre avec ce que l'on est, prendre de la légèreté, accepter nos limites, et puis surtout se dire bon, c'est pas grave, on y va, on continue comme ça, et puis on avance, et en fait ça nous met dans une sorte de faire sans avoir peur de faire, quoi, voilà. C'est-à-dire on se dit bah voilà, après tout je sais bien que les autres ils sont pas meilleurs que moi, et en tout cas pendant ce temps-là moi j'en bave. Et puis c'est pour ça qu'on a le plan B aussi, c'est que même on avait des personnes qui avaient 50, 60 ans, bah, qui s'inscrivait là-dedans. Parfois, on s'est rendu compte assez rapidement aussi que dans le challenge, on avait fait ça pour les athlètes. On recevait des photos où il y avait toute la famille qui le faisait, quoi. Tu vois, il y avait l'adolescente de 16 ans et puis sa femme. Et puis, on fait dire, ah, bah, en fait, c'est toute la famille qui fait du gainage le vendredi soir, quoi. Et on s'est dit, bah, du coup, c'est intéressant. Ça veut dire que ça amuse la famille, quoi. Donc ça, c'était chouette, ouais. Et on a gardé, cette idée de nous inscrire, d'aller chercher du petit défi. Parfois, il y a des choses très sérieuses et le lendemain, on les challenge sur un truc. Bon, voilà, il y a une bonne humeur.
Ouais. Non, mais en plus, moi, je t'entends parler un petit peu d'autodérision et d'humour, mais c'est aussi l'état d'esprit du trailer, tu vois. Bon, moi, j'ai fait toujours beaucoup de préparation physique parce que j'adore ça et tout, mais quand je suis avec mes potes trailers, on adore se chambrer à se dire mais oui, va muscler un petit peu tes bras, tu ressembles à une allumette, et c'est comme ça que tout le monde fait, en fait ça fait partie des codes, et
ouais, mais
ça fait rire tout le monde en fait.
Les bras ils servent pas en course à pied, on s'en fout.
exactement. Donc, tu vois, c'est aussi je pense que ça parle plus, tu vois, de prendre un petit peu le ton, soit de l'autodérision, soit un peu de l'humour, ou tout simplement du lâcher prise, de se dire je suis pas fait pour ça, j'aime pas ça, mais j'en fais quand même parce que ça me fait du bien.
Il y a une phrase, c'est faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux, quoi. Voilà. Moi, je pense que ça me guide dans ce que je fais, même dans l'entraînement. C'est voilà. On fait les choses sérieusement, mais à un moment, faut arrêter de croire que c'est plus important que ce que fait la NASA, quoi. Tu vois, c'est non, on fait juste un truc, on fait un loisir, et puis voilà, il faut se marrer, il faut y avoir du sourire, il faut qu'il y ait une satisfaction, il faut qu'à un moment on ait la tête contre le tapis en disant voilà, c'est tout, il y a rien d'autre à dire, c'est parfait, quoi, voilà. Mais par contre, on l'a fait, voilà, on n'est pas resté sur le cul sur sa chaise en trouvant le programme, j'en reviens, mais le programme idéal. La procrastination, c'est notre fléau du moment, quoi. Il y a tellement d'offres et tellement de possibilités de s'engager dans un projet. Profusion des moyens, confusion des intentions, quoi. Tu vois, il y a tellement de moyens qu'on peut faire tout ce qu'on veut, mais on sait pas vraiment ce qu'on veut faire, quoi. Puis on n'y va pas, en fait, à la fin. Et ça, c'est difficile, quoi.
Et je me demandais, tu vois, toi qui as peut-être un petit peu de recul et peut-être un peu plus d'expérience dans le monde du trail, est-ce que justement la partie préparation physique
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Est-ce que tu as vu le trail vraiment se professionnaliser à la fois sur la partie préparation physique et mentale et matérielle? Et est-ce que justement, je sais pas, tu vois, si 20 ans, 25 ans en arrière, en athlète, est-ce qu'on faisait beaucoup de préparation physique, tu vois, à des niveaux semi-pro? J'arrive pas du tout à me rendre compte à quel point la préparation était sérieuse ou pas.
Ah, moi, je pense déjà, le trail, c'est une pratique nouvelle, mais la culture athlétisme pur, c'est de la préparation physique, c'est-à-dire que les gammes, tous les enchaînements. Finalement, une culture athlète, c'est quand même beaucoup de PPG, beaucoup de PPS, etc. Quand t'as le coureur à pied a basculé en course sur route, je pense que c'est pas quelque chose qu'il a ramené. Il est sorti du stade, il a pas ramené le medicine ball avec lui, quoi. Tu vois, donc il est parti sur le. Donc la course sur route, ça n'a pas amené une préparation physique très. Enfin, il a délaissé la préparation physique, et je pense que le trail est rentré comme ça aussi. C'est-à-dire, moi, je vais sur la. Je suis dans la nature, je cours, je mets mon short, mon débardeur, et puis voilà. Donc effectivement, c'est. Je pense que. C'est pas quelque chose qui était forcément inclus dans l'idée première quand on va dehors d'aller se dire quand je veux faire du trail, il faut que je fasse de la préparation physique. Seulement quand on commence à s'inscrire dans la pratique, on voit bien qu'il y a quelque chose à faire. C'est-à-dire que à un moment, les contraintes que te demande un trail au point de vue des cuisses, les difficultés à rester gainé, à rester solide pendant 10, 15, 20 heures. Et puis surtout la récurrence des blessures qu'à un moment tu as parce que t'as pas de tenue de pied, parce que t'es moulou, parce que tes genoux, ou parce que tu manques de gainage, etc. fait que et puis quand ils vont chez le kiné leur dit non mais allez, on va faire cet exercice là, on va faire un peu de gainage, on va faire un peu de ceci, un peu de cela, et ce serait bien que vous en fassiez un petit peu tous les 10 minutes, un peu chaque jour, quoi. Voilà. Sauf qu'on en fait pour la réathlétisation, on a quitté le kiné. Et puis 3 semaines plus tard, on repart courir, on a oublié ça. Et on revient 3 mois plus tard chez le kiné, et le kiné te dit ouais, tu vois, ce serait bien quand même que tu retravailles tes chaînes arrière parce que tes ischios sont un peu faiblards, et puis repatati, repatata. Donc voilà. Donc à un moment, les gens, on va dire, alors il y a soit effectivement le kiné, c'est le mécano quand la voiture marche pas, et à chaque fois que ça marche pas, et ben on l'appelle, ou soit on fait un peu de préventif, on regarde de temps en temps les jauges, et puis on se dit si je me prenais un peu aussi en charge. Et j'étais pas démontant de la sécurité sociale pour faire ma pratique de sport, en fait, et ma pratique de coureur à pied. Et moi, je pense que ça, c'est une question fondamentale aujourd'hui. C'est aujourd'hui, comment t'inscris ta pratique? Est-ce qu'elle est totalement autonome? C'est-à-dire que t'es capable de faire du préventif, t'es capable de te gérer à la fois dans ta pratique, mais dans tes blessures. Combien de fois tu vas chez l'ostéo par an? Combien de fois t'es arrêté? T'as fait combien d'IRM depuis 2 ans? Si tu en as fait 4-5, t'as 6 fois l'ostéo, pour moi c'est pas une pratique, c'est quelque chose qui y a mieux à faire. Enfin, le système médical français aujourd'hui, il a mieux à faire que s'occuper de la bobologie des coureurs à pied, quoi. Voilà. Donc à un moment, la prise en charge par soi-même et prendre son autonomie sur ses pathologies et essayer de structurer son corps pour aller dans la pratique que l'on veut, ça a quand même du sens, et c'est presque un devoir, quoi. Voilà.
Non mais ça c'est clair, on oublie trop la partie préventive de l'importance de faire du renforcement musculaire. Je prends un cas complètement extrême et qui est très différent, mais je pense qu'il parlera beaucoup plus sur la partie justement prévention et importance de faire de la préparation physique. C'était une interview d'un d'un surfeur qui était un surfeur qui surfe des vagues énormes qui s'appelle Hamilton. Alors je sais plus son nom, je sais plus son prénom, mais je crois c'est un des surfeurs qui a surfé la plus grosse vague au monde. Mmh. En tout cas il a des records et le mec est bodybuildé, il est vraiment, le mec est énorme. Tu te dis mais comment il peut faire du surf? Et en fait quand tu lui demandes, il te dit mais en fait c'est très simple. Moi, je surfe des vagues qui font 20 mètres de haut. Si je m'en prends une sur la tête et que je suis comme un brin d'herbe, je me casse.
Bien sûr.
Et donc je peux en mourir. Et à l'inverse, bah j'ai des muscles profonds, gros, qui vont résister au choc, qui vont faire que je vais être beaucoup plus résistant. Et à ce moment-là, tu dis ah bah ouais, en fait, lui, en fait, il pratique vraiment le renforcement musculaire et la musculation comme vraiment une prévention et de la sécurité pour son sport. Alors peut-être que on peut se dire oui, mais moi je surfe pas des vagues de 20 km de haut et je vais pas me faire fracasser en deux. Mais en fait, sur un trail qui fait, même sur un 10 km, je vais faire mine de rien 10 000 pas, allez, un peu moins, mais c'est autant d'impact sur lequel il faut se renforcer et c'est de tenir la route, quoi. Donc
moi je prends souvent la métaphore d'une voiture, la carrosserie d'une voiture. C'est-à-dire aujourd'hui, je sais pas quelle voiture tu es. Je te vois de l'extérieur, je me dis bon bah allez, t'es carré, t'es lancé, t'es petit, t'es grand, t'es gros, etc. OK. Qu'est-ce que tu veux faire? Moi je veux faire un 10 km, je veux battre mon record sur 10 km. Bon, il va te falloir une Renault Alpine, quoi, tu vois, un truc qui va un peu vite, qui fuse et qui a de l'accel. Donc, à un moment, ta foulée, tes appuis, tes mollets, ils vont devoir résister à cette contrainte de courir vite sur la route qui tabasse à des contraintes musculaires très rapides, très fortes, et avec une foulée allongée, etc. Bon, tu mets une préparation physique où, effectivement, l'école de course, elle est fondamentale pour travailler l'élasticité de tes mollets, pour travailler le pied, etc. Si tu le fais jamais, dès que tu vas faire les premiers 10 km, mais tu vas te faire mal aux mollets. Mmh. Tu comprends pas pourquoi tu as fait une séance de seuil ou une séance d'allure 10 km et que le lendemain tu peux plus marcher ou tu fais une élongation mollet parce qu'ils sont pas prêts à ça. Et à l'inverse, je veux faire du trail. Mais trail, il te faut un 4x4. Voilà. Il te faut un truc où tu vas pas aller vite. Par contre, tu es capable de passer des terrains en dévers, tu es capable de monter des bosses à 40%, de descendre dans du technique et qu'à la fin, t'es pas cassé musculairement. Donc, si tu vas avec la Renault Alpine et que tu fais une prépa Renault Alpine et que tu décides de faire l'UTMB ou l'échappée belle, tu comprends bien que ça va pas monter haut, quoi. Voilà. Et que tu vas vite te casser. Par contre, et à l'inverse, tu fais la prépa trail et tu vas faire 10 km, tu vas être un peu tracteur, quoi. Ça va pas te servir beaucoup. Mais à la limite, au pire, tu vas la finir. C'est au moins ça l'avantage. Donc, c'est aussi à un moment comme Hamilton, là, c'est comment tu comprends ce qu'il te faut comme outillage pour résister aux contraintes que va te demander ton sport, quoi, et que la pratique spécifique seule ne suffit pas. C'est-à-dire que tu sais qu'il faut des abdominaux pour tenir ta foulée et être pour courir, mais tu peux courir 5000 km à l'année. À la fin, tu n'auras pas plus d'abdominaux ou pas beaucoup plus d'abdominaux que quand tu as commencé en janvier, en fait. C'est qu'à un moment, il faut quand même travailler les abdominaux qui vont te servir pour tenir et être plus gainé. Donc, c'est cette idée quand même d'accélérer un peu le process de renforcement par des exercices de préparation physique pour aller un peu plus vite que si tu utilises juste le travail spécifique du mouvement. Et puis surtout, ça te déséquilibre dans ton corps. Un coureur à pied qui fait que courir, à un moment, il se raidit sur des chaînes musculaires, il va avoir des, comme tu dis, il va avoir des cuisses fortes, il va manquer de souplesse dans le dos, les bras, il aura plus de force dans les bras. Bon, à un moment, le corps harmonieux, c'est bien aussi, quoi, pour pas se lever le matin avec, ou quand t'es assis sur une chaise, t'as du mal à lever, ou t'as mal au dos quand tu travailles devant un ordi. Faut aussi avoir un peu de global dans tout ça. Tu peux pas être uniquement spécifique comme Nadal avec un bras gauche plus gros que le bras droit, quoi. Tu vois, ça marche quand tu fais quand t'es dans un sport extrême ou quand tu vas au bout de l'élitisme. Mais nous, on est des amateurs, donc il faut aussi garder une santé globale.
Ouais, exactement. Ouais. Mais je sais plus de qui j'avais entendu ça, mais c'était un préparateur physique, quoi, qui disait c'est simple, si tu veux performer le plus vite possible dans un sport ou dans une compétence, il faut la faire le il faut en faire le plus possible et ne rien faire d'autre. Par contre, si tu veux performer le plus longtemps possible dans une discipline, là, il faut que tu varies le plus possible justement pour équilibrer et compenser la performance que tu vas faire. Et du coup, bah, c'est tout le travail effectivement, à la fois pour un athlète de haut niveau et à la fois pour quelqu'un qui a envie de maintenir sa bonne santé, de trouver le juste équilibre entre les deux.
100% d'accord. C'est alors moi, j'ai une grosse affinité avec l'agriculture. C'est l'agriculture intensive ou l'agriculture raisonnée. L'agriculture intensive, tu relaboures un champ, tu mets de l'engrais, tu fais une alternance de deux cultures pendant 20 ans sur une terre. À la fin, la terre, elle est rasée et elle est dépendante de plein de choses, du kiné, des engrais, etc. L'agriculture raisonnée, tu laisses pousser, tu alternes, tu fais plein de choses, tu diversifies tes cultures, tu laisses le temps, tu mets de la jachère, c'est-à-dire du repos pour le sportif. 20 ans après, ton sol, il est plus riche que quand tu as commencé. Voilà.
Ouais.
Et à un moment, c'est cette idée de comment tu te cultives dans le temps, comment tu mets de la diversité, la biodiversité, si on reprend le modèle agricole. Et à un moment, comment tu n'utilises pas, tu fais pas du hors-sol, en fait. Et aujourd'hui, on est parfois sur une pratique hors-sol dans notre pratique sportive, ouais. Et ça, il faut s'en méfier quand même.
Ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord, et très belle métaphore entre la voiture et l'agriculture. J'aime beaucoup tes comparaisons, et je sens effectivement l'âme quand même du coach qui est capable de transposer des images. Et d'ailleurs, en parlant de coaching, tu vois, moi aussi je coach beaucoup. Alors moi, c'est plus, tu vois, des créateurs d'entreprises ou des créateurs de projets. D'ailleurs, bon, j'ai quelques auditeurs d'extraterriens là qui m'ont contacté, qui sont des athlètes de haut niveau et qui veulent que je les accompagne sur des créations d'entreprises ou des créations de blogs ou même de podcast. Et c'est très intéressant parce que je peux voir beaucoup de passerelles entre le sport et on va dire l'entrepreneuriat. Mais du coup, je suis un peu curieux de savoir, toi, quel est ton modèle d'accompagnement aujourd'hui? Comment est-ce que tu fonctionnes? Tu vois, moi, j'aime bien travailler avec les gens durant 6 mois parce que je sais que il va y avoir une bonne phase de cadrage, et puis derrière on peut vraiment se lancer. Mais toi, généralement, comment est-ce que tu fonctionnes et avec quel type de profil, quel type d'objectif?
Alors, les profils, moi, je reçois tout type de profil. Alors, j'ai une étiquette d'entraîner le haut niveau, bah, parce que je suis identifié par des athlètes de haut niveau souvent, mais non, j'entraîne des coureurs qui ont des projets okay, plus modestes, qui sont dans des milieux de peloton. Mais la nature du projet et l'engouement dans le projet que les gens amènent, pour moi, ça a de l'importance. Donc, j'aime bien, on fait toujours une phase de découverte, de présentation, d'aspiration, qu'est-ce que tu veux être en 3-4 ans comme sportif, ça me donne de l'énergie ou ça m'en donne pas, quoi. Voilà, c'est-à-dire que je me dis, ouais, ben non, t'as déjà tout fait, pourquoi t'as besoin de moi, tu sais faire, ou alors ah ben oui, ok, on y va, ouais, excuse-moi, hein, je te dérange, je suis sûr que tu vas me refuser. Moi, j'adore quand on commence comme ça parce que c'est bien. Et après, voilà, non, le projet, il est cool, il est modeste, mais en même temps, il a des yeux d'enfant. Moi, j'adore accompagner des gens comme ça, parce que tu sais que tu vas aller loin, tu vas pouvoir mettre de l'énergie, qu'on va pouvoir travailler vraiment, vraiment de manière sympa.
Après, et sur cette préparation, tu l'as fait durer quoi, une heure
c'est un ouais. Ouais, alors souvent, ouais, c'est le démarrage où on se dit, on se serre la main, enfin via WhatsApp, mais à la fin, c'est au moins une heure, ouais. C'est au moins une heure entre explique-moi ton parcours. À quoi tu aspires, comment tu t'organises et c'est quoi tes limites aujourd'hui. Et puis moi, j'explique aussi comment je fonctionne, quoi. Moi, dans mes deux fonctionnements, mes deux, trois principes de fonctionnement sur le coaching, c'est que j'intègre sa vie, c'est pas lui qui intègre mon coaching. Alors, ça, c'est fondamental. C'est-à-dire, explique-moi ta vie, mets-moi tes opportunités, tes obstacles, et puis moi, j'essaie, et explique-moi la vision que tu veux avoir à la fin. Je te dis si c'est possible ou c'est pas possible, mais souvent c'est possible. Et par contre, après, je vais m'adapter, je vais faire en sorte que. Alors, ça prendra peut-être un peu plus de temps si t'as vraiment pas de temps, mais on avancera. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est dis-moi autre chose que ce que je vois sur les réseaux, quoi. Voilà. Moi, Strava, je m'en fous de savoir ce que t'as fait sur Strava. Par contre, dis-moi vraiment ce que t'as sur le cœur dans la prépa et comment on avance et est-ce que t'es en adéquation avec ce que tu veux faire. Est-ce que ça te plaît? Est-ce que ça t'amuse? Et puis comment on avance? Et puis la dernière chose par rapport à ta question que tu travailles avec des gens sur 6 mois. En fait, moi je ne crée pas de contrat. C'est-à-dire si au bout de 2 mois la personne elle me dit ouais mais là franchement c'est naze ce qu'on fait, alors bon, ça m'est jamais arrivé, mais bah écoute, c'est naze. Je veux dire, il y a plein d'autres coachs. Moi, je donne ce que j'ai à donner. Je te donne ce que je pense être bien pour toi. Si tu l'entends pas, tu comprends pas, et puis peut-être que je suis maladroit pour l'exprimer, bah c'est qu'on ne check pas. Et puis voilà. Et puis on part sur un projet. Le projet est validé. S'il veut continuer, on continue. Si ça doit s'arrêter, faire une pause, on fait une pause. Et s'il a besoin de moi sur un autre projet, on reprend un autre projet. En fait, je me méfie de la dépendance au coach. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, moi, j'aspire quand même à créer un certain... ça, j'arrive pas avec tous les athlètes. Hein, certains ont besoin. Je travaille depuis des années avec eux. Mais j'aspire quand même à ce quelqu'un qui quitte un coach, il continue sa pratique et il a compris des choses et puis il est capable de mener son truc et d'avancer quoi. Donc cette absence de lien ou de contrat, pour moi ça laisse la liberté, la liberté à chacun de s'inscrire. Et puis d'un point de vue très pragmatique, économique, c'est pas un souci pour moi. Je veux dire, je travaille avec plusieurs personnes, j'ai pas un client unique, donc je suis pas... C'est ça aussi le risque quand on a deux clients uniques, ça nous plaise ou ça nous plaise pas. Si on perd 50% de son chiffre d'affaires parce qu'on peut pas envoyer bouler la personne, on fait plus son travail. En fait, on est en train de répondre à il faut que le chèque il tombe à la fin du mois. Moi, j'ai une strate de multi clients. Voilà, on peut passer des clients. Donc, j'en perds deux, c'est pas grave. À la fin du mois, je vivrai pareil. Ça me laisse cette liberté de pouvoir dire les choses, d'accompagner avec, sans avoir et pour le coach, ça c'est quand même important, c'est de pas avoir cette précarité financière qui fait qu'à un moment on sert la soupe pour avoir la soupe à la fin, mais on dit plus rien parce qu'on se fait massacrer. Donc ça, pour moi, c'était important d'avoir cette autonomie, on va dire financière, et cette liberté d'expression, et qu'elle soit pas dépendante justement de ce que l'athlète me paye à la fin, quoi. Voilà.
Ouais. Ben ça, c'est sûr que c'est hyper important, même pour tous les métiers de service, tu vois, d'être capable de garder un petit peu son indépendance et sa franchise, quoi, tout simplement.
Exactement.
Sa parole de coach, d'être capable de dire ce qu'on pense être bon pour l'autre ou pas, et de pas lui servir ce qu'il a envie d'entendre. Donc ça, je suis tout à fait d'accord.
C'est pas si facile que ça à mettre en place d'un point de vue économique, si on le rentre de manière très pragmatique. Et puis moi aussi, j'ai une dernière chose, c'est que ma carrière, je l'ai faite en tant qu'athlète. Et que je vis pas par le prisme d'un résultat d'un athlète, en fait. Voilà. C'est-à-dire que moi, je suis très fier de ma carrière d'athlète. J'ai fait ce que j'ai à faire. J'ai vécu des émotions de fou. Maintenant, je fais gagner des athlètes. Je fais réussir des athlètes. Mais je suis pas dans une, ma vie sera pas meilleure, ou moins bonne, si un athlète réussit ou échoue. Je suis content pour lui. Je l'accompagne. Mais, j'existe pas par la réussite de l'athlète. Et ça aussi, c'est important. Et je vois trop de coachs qui ont mes athlètes, ma fille que je coach, ils s'approprient, en fait, ils possèdent les clés du truc. Non, il faut les laisser vivre, et puis eux, ils font leur carrière, mais tu dois pas vivre de leur carrière, quoi. Voilà. Donc moi, j'ai eu cette chance, en fait, de avant de commencer le coaching, d'être parfaitement épanoui, d'avoir vécu ce que j'avais à vivre en matière sportive. Du coup, je suis assez sevré par rapport à ça. J'ai beaucoup de détachement aussi, du coup, par rapport au succès, la gloire et la reconnaissance. À mon échelle.
Ouais. Non, mais c'est important de le préciser, parce que c'est vrai que on peut avoir tendance à beaucoup transposer, ouais. Ça, c'est clair. Et après, c'est aussi, alors je sais pas toi, comment est-ce que tu as défini ta mission, ou comment est-ce que tu as défini ton pourquoi de ton activité, mais moi je sais que je prends beaucoup de plaisir à voir les autres réussir, tu vois, et du coup c'est une bonne là tu me mets sur sur une bonne réflexion, tu vois, qu'il faut que j'aie. Est-ce que je peux avoir tendance à transposer ou pas, et comment ne pas m'approprier le succès des autres? Ça c'est clair que c'est important. Ouais.
Alors moi, je l'ai identifié comme ça, pour répondre à ta question. Je suis un âne de bas. Voilà.
Ok.
Donc, c'est-à-dire, si tu veux faire une randonnée dans les Cévennes cet été, t'as un sac qui est un peu lourd parce que tu veux tout prendre, t'as peur quand même de manquer de quelque chose, que les Cévennes ça craint. et ton sac, tu te rends compte qu'il fait 25 kilos et tu n'arriveras jamais à traîner 25 kilos pendant 10 jours. Donc, tu dis, il faut quelqu'un pour m'aider. Et là, je suis encore dans la métaphore, mais c'est vraiment ça. Et donc, tu prends un âne de bas. L'âne de bas, c'est moi, le coach. Tu vas le prendre pour une mission. Tu vas lui dire, bah écoute, on va traverser les Cévennes. Moi, j'ai 25 kilos, j'en prends 10. Si tu peux prendre les 15 kilos suivantes, tu marches à mes côtés et puis on avance, quoi. Et puis moi, en tant qu'âne de bas, j'accepte la mission. On va jusqu'au bout des Cévennes. On avance côte à côte. Et puis le l'âne, ça marche plutôt à la mesure du, ça ralentit, ça marche pas sur le mauvais chemin parce que ça a une bonne mémoire quand même. Enfin, ça a pas mal de qualité, un âne, contrairement à l'image qu'on peut s'en donner. Et au final, moi, j'accompagne, tu vois, je prends une charge du projet. Je suis dans le truc. À la fin, l'âne, le randonneur, il a traversé les Cévennes. Il me remercie et puis il ramène l'âne chez son prestataire et puis il a fait ce qu'il avait à faire. Et finalement, c'est un super compagnon de voyage. C'est quelqu'un qui l'a aidé à porter une charge. D'empêche que l'autre, il a quand même marché. Tu vois, c'est pas un cheval. C'est voilà, il a marché. L'âne a marché à côté. Il a suivi aussi l'âne. Et puis voilà. Et ça, j'avais identifié ça. J'ai fait un DU prépa mental, accompagnement, et on était un peu sur cette métaphore d'un animal. Et moi, j'ai une sensibilité à l'âne, je sais pas pourquoi, je trouvais ça rigolo comme animal. Et finalement, j'avais fait une randonnée avec un âne aussi en famille. J'avais trouvé ça sympa, et puis finalement, je me dis, mais ouais, je suis ça, en fait. Ouais, c'est très bien. Je trouve que c'est bien, et puis ça dit pas de ce que sera le voyage, en fait. Tu peux avoir un bon âne, un mauvais âne, un bon partenaire, un mauvais marcheur à côté de toi pour l'âne. Mais en fait, on va traverser, on va y aller, ça. On va faire cette traversée. Donc, et je me remets souvent dans ce truc. Est-ce que je suis un âne de bas ou est-ce que je suis un chien de traîneau, quoi? Tu vois, qui est en train de tirer le chariot et qui est en train de tirer la langue pour ramener tout le monde au bout, quoi. C'est pas la même chose, hein.
Ouais. Très chouette. Bah écoute, je retiendrai ça. Sur maintenant, je vois, j'imagine l'âne il marche à côté.
Il y aura plus les ânes pareils.
écoute, moi j'ai fait le tour de beaucoup de sujets que je voulais aborder. Après, j'aime bien terminer ces petites interviews avec des petites questions un petit peu inspirantes. Est-ce que ça te dit de te prêter au jeu? Tu peux y répondre du tac au tac ou approfondir si t'as envie. C'est les questions que je t'avais envoyées avant qu'on puisse échanger.
Ouais, on y va. Ouais, très bien.
Ouais, bah, la première, c'est est-ce que c'est quoi une bonne journée pour toi?
Une journée qui démarre tôt.
Une journée qui démarre tôt, comme aujourd'hui.
Ouais, alors non, mais j'étais déjà levé depuis 2 heures. Je me lève à 5h et 6h du mat. Ouais. Ouais. Par contre, je suis un couche-tôt. Mais ouais, j'aime bien me lever aux aurores, prendre un café dehors avec le lever de soleil. J'ai travaillé un peu avant ou après, mais une bonne journée, c'est une journée où j'ai travaillé énormément le matin. Voilà, et qu'à midi, j'ai une après-midi vraiment light.
Bon bah cool. OK, je suis un petit peu pareil, je te ressemble beaucoup. C'est quoi le meilleur souvenir de ta carrière de coach, on va dire?
C'est impossible à dire. C'est plein en fait, meilleur non, je sais pas, c'est forcément des grandes victoires avec des grands athlètes. Et c'est des grands retours d'athlètes qui étaient blessés avec qui on travaille depuis un an. C'est en fait mon métier, il m'offre plein de petits shoots comme ça dans l'année quand même, quoi. Voilà. Quand tu passes ton week-end sur Live Try à suivre tous les gars comment ils avancent et que tu reçois le SMS à la fin en disant ah putain merci, pas plus hein, merci Christophe, génial, voilà. Et là tu vois, j'étais sur les débriefs de la réunion cette semaine là avec des athlètes. Bon, voilà, ça, c'est des choses qui te font avancer dans ton travail et qui te donnent des choses. Donc, un souvenir, non, j'en ai pas, non, non.
Ok. À l'inverse, est-ce que t'as un pire souvenir à mentionner?
Ou une
anecdote marrante, sinon, à la limite.
Non, pire, mais après, je vais pas citer la personne, hein, mais, j'ai longtemps cru que le physio aurait suffi pour faire gagner les gars et puis pour faire réussir le gars sur un trail. Et puis c'était l'UTMB, j'étais en vacances et il y a un athlète au bout de 3 heures de course à l'UTMB, il m'appelle, il me dit je suis assis sur un rocher, je vais rentrer, je vais aller voir ma femme. Bah non, ouais, tu peux pas, okay. Tu peux pas, t'es en forme, t'as préparé tout l'été, t'y vas. Non, Non, mais merci Christophe pour le coaching. Non, t'as raison, je suis en forme, je suis bien, mais je vais rentrer chez moi là. Et là, tu dis, bon, là, t'as raté. Ben là, t'es un gros naze, en fait. T'as raté vraiment un truc. C'est quoi le problème, quoi? Enfin, je dis, c'est moi le gros naze, hein, c'est pas l'athlète. Hein. Et là, je me dis, bon, là, il faut que tu t'équipes pour accompagner les gens dans autre chose que l'aspect physio. Parce que le gars, il était dans la forme de sa vie. C'est ça, j'avais aucun doute là-dessus. Mais j'avais raté quelque chose de fondamental, c'est qu'il n'était pas à sa place et qu'il était en train de faire du hors-sol complet et ça, pour le coup, c'est un mauvais souvenir dans l'instant. Ça m'a fait pourrir mes vacances quand même, parce que je me suis dit, en fait, je suis nul quoi. Et puis après, je me suis mis à faire une formation prépa accompagnement DU prépa mental, et j'ai revu aussi ma façon d'accompagner les gens, d'être dans quelque chose d'un peu plus global, on va dire, et ça m'a vachement aidé. Ça m'a aussi permis de prendre du recul sur les échecs, sur les réussites, en disant, voilà, ta place, elle est où, justement? Pas m'approprier les échecs, ça me fait encore mal quand même, ça me fait toujours mal. C'est les abandons, c'est je comprends pas, etc. Et l'athlète te rejette rarement la faute, mais t'y es quand même avec lui, quoi. T'y es dans la prépa, tu cherches à comprendre, et ça m'atteint quand même beaucoup, mais ça m'atteint moins qu'au début de mon début où je faisais du coaching quand même, parce que okay. Je me dis, bah voilà, déjà le sport, ça fait partie du sport, voilà, que tu vas pas pouvoir réussir tout, que les athlètes peuvent pas tout réussir, qu'à un moment c'est eux qui ont les clés du camion aussi. Et donc c'est, voilà, finalement c'est un sale souvenir qui m'a laissé qui m'a fait grandir vachement dans mon boulot, quoi. Et ça, c'était il y a 6-7 ans, ouais.
OK. Mais merci d'avoir partagé un peu cette déconvenue et cet instant qui a l'air assez décisif, tu vois, qui peut ouvrir les yeux. Je pense qu'on en a tous, tu vois, en tant qu'accompagnateur, des moments où on se dit, enfin, de louper, on va dire, une partie, tu vois, de son accompagnement, et de se rendre compte à quel point il faut remettre un petit peu tout en question, quoi, et retravailler sa méthodologie. Il y a un sportif ou une sportive que tu as admiré, ou peut-être qui t'a inspiré plus que les autres?
Eh ben non, ça m'a bloqué, cette question. J'ai cherché. Il y a plein d'athlètes, je pourrais te citer plein d'athlètes que j'apprécie, que je suis content de voir gagner. Et puis j'ai une culture du sport depuis que je suis gamin, donc je lis l'équipe tous les jours. Enfin, il y a plein de choses qui me passionnent, mais un athlète dans sa globalité. C'est hyper compliqué. Peut-être Mohamed Ali quand même, tu vois, avec ce côté politique, ce côté engagé, ce côté retour. Peut-être, voilà, c'est de cette dimension-là, quoi. Mais d'un point de vue sportif, Gebressier Lassier, évidemment, sportivement, c'est énorme. Mais il manque peut-être une partie politique, humaine, que même si je crois qu'il fait des choses vachement sympas en Éthiopie, mais qui pour moi est fondamental chez un sportif, que l'on doit, pour être un sportif de cette dimension et pour qu'il m'inspire dans sa totalité, c'est au moins du calibre de Mohamed Ali, donc du coup il y en a pas des masses, quoi. Ouais.
OK. Non, mais c'est dur, tu vois, d'être bon à, enfin, de tout réussir, quoi, tu vois.
Bah, bien sûr. Et puis il a pas tout réussi non plus. Il a des parts d'ombre dans sa vie.
Grosse part d'ombre, ouais.
Ouais. Mais c'est des gens qui s'engagent, en fait. Moi, j'aime bien ça, des gars qui sont entiers, qui bousculent les choses, quoi. Voilà. Mais du coup, par contre, effectivement, il y a des gens qui me font encore lever de ma chaise. Alaphilippe, qui gagne les championnats du monde il y a un mois, je suis debout sur mon canapé, quoi. Tu vois, sur les 10 derniers kilomètres, c'est un truc de dingue. C'est juste dingo, ça. Mais il m'inspire pas. C'est juste qu'il me donne des vibrations de fou, quoi. Voilà. C'est ça, j'adore.
Bien sûr. C'est le sport, quoi.
Ouais, c'est ça. Exactement. Ouais.
Super. J'allais te demander comment est-ce que tu libères la pression, mais je crois que j'ai compris, en fait. tu te lis l'équipe, ou tu regardes une bonne compétition sportive. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te permettent d'évacuer le stress et la pression?
Je vais dans mon jardin. Ah. Okay. Ouais, je me reconnecte à la terre et je décroche des écrans et du portable et des communications et du microcosme et des réseaux sociaux autour de la course à pied qui te rendent un moment, tu restes dans ton univers. Donc je fous les mains dans la terre, ouais, voilà.
Ouais, mais t'as bien raison. Est-ce qu'il y a un autre sport que tu aurais aimé pratiquer ou sur lequel tu aurais aimé accompagner des athlètes?
Le vélo. Alors ouais. Là, grosse part d'ombre, très lucide sur le côté. C'est juste dingue cette discipline. Comment elle est vérolée, comment elle a une histoire, etc. Et pourtant, j'ai jamais pu m'en départir. C'est-à-dire que l'histoire du vélo, je la connais depuis le début du Tour de France, des 100 années. À une époque, j'étais capable de te citer tous les vainqueurs du Tour de 46 à aujourd'hui, quoi. Alors, j'ai perdu quelques lignes maintenant, mais ouais, j'adore ce sport. Et je suis très lucide sur ce qu'il est aujourd'hui ou ce qu'il a été. Et je suis très dégoûté sur plein d'aspects. Mais pour moi, être devant un Tour des Flandres, un Paris-Roubaix, voir des étapes de montagne, et puis j'adore faire du vélo. J'aurais été cycliste professionnel. J'aurais trop kiffé. Et en même temps, je suis pas sûr parce que j'aurais sûrement perdu beaucoup d'illusions. Je sais pas. J'ai pas perdu mes yeux d'enfant avec ce sport et c'est marrant. Je sais pas pourquoi d'ailleurs.
Ouais. Mais je pense que c'est un sentiment partagé par beaucoup de gens, hein, tu vois, ouais. Où on peut se mettre un petit peu un voile sur les yeux parce que on sait ce qui s'y passe et pourtant,
ouais, tu vois les visages de Paris-Roubaix il y a 3 semaines, quand tu vois les gars ce qu'ils se mettent sur Paris-Roubaix, comment ils rentrent crassés, passer 2 heures ou les filles la veille, tu dis bon ok, ça va. C'est juste incroyable, quoi. Moi, je l'ai fait, j'ai fait Paris-Roubaix, j'ai fait les pavés et tout, histoire de voir à quoi ça ressemblait. Quand tu vois les conditions et tout, tu dis, bon, les chutes, tu te casses 3 fois la clavicule dans la saison, fracture du bassin, enfin, tu dis, mais c'est dingo, quoi. Voilà. Donc, je suis quasiment, aujourd'hui, quand je lis l'équipe, en premier, je vais sur la page cyclisme. Voilà. Okay. C'est pas le foot. Le foot, j'en peux plus. C'est impossible. mon premier sport, je vais voir sur l'équipe, c'est sur l'appli, c'est le cyclisme.
Ok. Comment est-ce que tu te vois dans 10 ans?
Alors, dans 10 ans, ça, c'est la grosse question, grosse question du moment. Encore plus dans mon jardin. Encore moins sur les écrans. ça c'est le boulot à entreprendre. Et c'est un peu pas me retirer du monde, mais en tout cas ralentir vraiment et puis passer encore moins de temps sur tout ce qui tout cet aspect un peu futile, un peu rapide de qu'on nous donne aujourd'hui, qu'on nous sert aujourd'hui pour m'inscrire un peu dans des choses un peu durables, pérennes et puis ralentir. C'est plutôt ça l'idée. Ouais.
Y a encore des choses qui te font peur? Non.
Et moi, je suis un éco-anxieux. Bah, par rapport à la question d'avant. Voilà. Ça suit. Si ce que je te dis d'avant, c'est parce que aujourd'hui, je fais la solastologie, je crois, ou un truc comme ça. Enfin, en tout cas, je suis éco-anxieux. Alors, pour moi, toutes les émissions autour du réchauffement climatique, des choix énergétiques, de la perte de biodiversité, etc. Mais ça me plombe pas. Mais ça me demande une énergie folle pour agir et pour me dire que là, il faut que je fasse un changement. En tout cas, qu'il faut que j'avance sur ces plans-là et que je fasse ma part, quoi. Et du coup, aujourd'hui, comment ça avance aujourd'hui la société, ça me fait peur, non, parce que ça me paralyse pas, mais ça m'interpelle vachement, ouais. Ouais. Je suis pas si serein que ça, en fait, voilà, tu vois.
Bien sûr, ouais. Bien sûr. Non, mais t'as tout à fait raison, et la situation est alarmante, quoi. Donc, et c'est sûr qu'il faut que chacun, à titre individuel, on réagisse et que ensuite on puisse enfin réagir un peu plus collectivement, quoi. Mais ça prend du temps. Ça prend.
Ouais. Puis c'est un travail personnel. Après, je prétends pas vouloir changer la société parce qu'elle est beaucoup. Il y a beaucoup plus d'inertie que ça. Et puis personne ne pourra la faire changer à quelle que soit son échelle. Mais en tout cas, c'est histoire de faire sa part, d'être serein aussi, de pas. de pas être toujours écartelé entre des choix et de la raison, quoi, tu vois, se dire, bah, j'ai une certaine cohérence entre ce que je fais, ce que j'aime, et puis comment je vois le monde, quoi, et pas, tu vois, par exemple, je pars dans 10 jours au Cap-Vert pour faire du trail,
ouais.
Et ben, je suis mal à l'aise de prendre l'avion, tu vois, je me dis, okay. Et en fait, je me dis, bon, à un moment, faut que tu tranches, quoi. Tu peux pas dire, et j'y arrive pas. Il y a des choses, j'ai envie, le Cap-Vert, ça va me plaire, j'aime mon sport, et en même temps, putain, je suis sur le, focus sur cet avion, à me dire, mais merde. Et il y a, à un moment, il y a des solutions où il va falloir quand même trancher, quoi. Voilà. Donc, c'est vraiment des trucs à la con, c'est des trucs de fond, et même dans ma pratique aujourd'hui de coaching, par rapport même aux réseaux sociaux, à la métadonnée, à tous les données que l'on donne aux GAFAM pour faire du sport, comment aujourd'hui on consomme notre sport, comment on voyage pour consommer, tout ça, pour moi, ça a du sens. Et tu vois, des fois, même dans ma pratique de coach, je me dis, ouais, à un moment, comment tu redonnes sens, même, ou comment tu, j'ai pas envie d'être donneur de leçons, mais en tout cas, dans ce que je fais, j'ai envie d'avoir une forme de cohérence et pas de tomber dans quelque chose de managérial ou de trop, je l'ai redit deux, trois fois, un peu hors sol dans notre pratique. Et c'est assez facile aujourd'hui de faire sa pratique sportive dans son coin, d'être le roi du monde et de se prendre pour le roi du monde en faisant des épreuves extraordinaires. Mais en fait, en perdant de vue à un moment tous les enjeux qui sont autour, quoi.
Ouais. Je te comprends. Est-ce que peut-être par rapport à ça ou même par rapport à d'autres sujets, est-ce qu'il y a un livre ou un film que tu recommandes à tout le monde autour de toi?
Non, il faut écouter Jean Covici en ce moment. Jean-Marc Jancovici, vous prenez une conférence sur YouTube et puis ça vous pose le problématique des prochaines années et ça donne des bonnes idées de réflexion. Voilà.
OK. Il y a un conseil de qu'on t'a donné dont tu te souviens plus que les autres et qui t'a fait évoluer et un conseil que t'aimes bien te répéter.
J'ai pareil quand j'ai eu cette question, je me suis dit ouais, c'est pas facile. Et puis après, des fois, il faut t'en as un et puis tu dis ouais, je vais pas dire celui-là parce que ça, et puis en fait s'il est venu, c'est qu'il est venu, quoi. Donc
bien sûr,
ouais, et je me souviens d'un, je devais être cadet ou plutôt junior, je crois que c'était un départ de 5000 mètres sur piste, et donc on est sur la ligne de départ et j'ai ma montre chrono et puis je suis prêt à démarrer ma montre pour le start, quoi. Et puis là il y a un gars qui vient me voir et me dit non mais lâche ta montre. On s'occupe du temps. Toi, tu cours. Voilà. Et à un moment, je sais pas pourquoi je m'en souviens de ça, mais en fait, je pense que c'est ça. À un moment, faut se détacher, faut juste s'engager. Voilà. Et la montre, il y a des gens qui s'occupent de ça. Voilà. Et quand tu prends un dossard, il y a des mecs qui s'occupent du chronométrage. T'inquiète pas, t'auras ton temps à l'arrivée. Il y a des mecs qui s'occupent du ravito. T'inquiète pas, t'auras ce qu'il faut. Mais à un moment, sois dans ce que tu dois faire, quoi. Et ce que tu dois faire à l'instant, c'est pas d'allumer ton chrono. C'est d'être prêt à faire le premier pas et faire le premier meilleur pas pour partir vraiment dans ta course, quoi. Et tu vois, c'est, ouais, c'est ça. À un moment, quand t'es coureur, tu cours. Et il y a plein de gens qui s'occupent de tout le reste et, t'as peut-être anticipé des choses. Parfois, c'est utile, mais il faut aussi parfois être juste dans faire ce qu'on a à faire, quoi. Voilà.
Eh ben écoute, être dans l'instant présent et être concentré sur ce qu'on a à faire, ça me va très très bien. La toute dernière question, c'est un passage de micro et c'est de savoir quelle est la personnalité, alors ça peut être dans le trail ou dans un autre sport, que tu me recommandes d'aller interviewer, qui serait le prochain invité ou la prochaine invitée que tu aimerais écouter sur le podcast extraterrien.
Ah ouais, ouais, il y avait cette question.
Tu peux m'en donner plein, hein. ça peut être des gens que tu connais, que tu connais pas. Moi, je prends tout. C'est pour l'aventure humaine.
Ouais, j'ai un athlète qui est pas connu. Il est breton. Jérôme Lucas, il s'appelle.
D'accord.
Bon, il est connu dans le microcosme du trail. Qui vient de finir le Tour des Géants. Il a fini 5-6e. Et avec qui j'ai travaillé 7-8 ans. Et qui a eu un parcours extraordinaire de trailer. Il a commencé à 40 ans, il en a 50 aujourd'hui. Il s'est investi, il a eu des déclics dans sa vie avec par rapport à des bah, des parcours de vie, des copains qui ont quitté la vie, etc. Et à un moment, il a pris le sens de la vie et il a eu un super parcours. Et je trouve que voilà, c'est un agriculteur. Je trouve que c'est chouette. Ouais. On a arrêté le coaching ensemble parce que voilà, on était sur une fin de parcours ensemble. Mais je trouve que c'est vachement inspirant. Après, j'aime bien Mathieu Forichon des Bosses et des Bulles sur son aspect illustrateur du milieu du trail et puis ce côté un petit peu décalé. Et puis on a aussi un petit peu collaboré ensemble et puis on se connaît bien et j'aime vraiment bien discuter avec lui. Je pense à ces deux-là, des gens qui sont un peu dans l'ombre, c'est pas des gens hyper connus, mais qui et puis des parcours aussi. Enfin, je repense à Jérôme, un parcours un peu inspirant, toujours un peu en deuxième zone d'élite, mais en tout cas qui sait où il va et qui mène bien son affaire dans une vie de pas professionnelle ni semi-professionnelle avec un métier, avec un sens de l'associatif et un engagement associatif aussi vachement important dans son village. Moi, je trouve que c'est des beaux témoignages, c'est-à-dire qu'on n'est pas consommateur, on participe aussi à sa pratique. On voit, je trouve que c'est, je sais pas, je pense à lui, ouais.
Ok, bah écoute, merci beaucoup pour ces recommandations et merci infiniment Christophe pour cet échange. Écoute, moi je me suis régalé à parler de carnet d'entraînement, à parler de PPG pour le trailer, à parler de sens aussi, sens de la vie, sens du sport. J'ai passé un super moment, donc c'était merci infiniment et je suis sûr que tes recommandations seront d'excellente qualité. Donc je vais me renseigner sur leur parcours un petit peu plus.
Merci à toi, Barthélémy. C'est toujours un bon moment, le podcast, de toute façon. Et puis, ces questions étaient, ouais, c'est bien. On savait pas ce qu'on allait se dire en début de podcast. Et ben, on a pas mal parlé, finalement. Merci
ouais,
à toi.
Exactement.
Puis, merci pour cette invitation. J'avais vu la liste des invités auparavant. Je me dis, mais pourquoi tu suis là? Je t'ai dit, mais pourquoi tu me contactes? En fait, c'est pas le lieu ni la personne. Et non, c'est chouette. C'est un honneur. Merci.
Ben écoute, merci à toi. Tu sais, j'avais envie de faire quelque chose un petit peu différent, de rentrer un petit peu plus, d'apporter aussi de la valeur, tu vois, aux auditeurs et de leur de me plonger un petit peu sur justement un peu les gens qui accompagnent les champions. Et je sais que t'en as accompagné certains, donc ça faisait du sens aujourd'hui. Ne t'en fais pas. Merci beaucoup, Christophe. À bientôt.
Salut. Ciao.
Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.